Bienvenue sur le podcast Nées en conscience. Je suis Cécile Tigoulet, musicienne et doula à Bruxelles. L'arrivée de ma fille Cerise a fait naître mon envie de rendre accessibles des témoignages d'accouchement dits physiologiques. Dans cette première saison, je reçois des femmes qui racontent leur cheminement autour de la naissance de leur bébé et partagent leurs récits d'enfantement. Le podcast idéal à écouter si vous êtes enceinte et que vous cherchez à vous réassurer dans vos capacités à accueillir votre bébé par vous-même, avec force et confiance. Marchons ensemble vers le nouveau paradigme des naissances. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai une image magnifique en face de moi avec... Alors, non seulement une magnifique maman qui est avec nous, qui s'appelle Léa. Bonjour Léa.
Bonjour.
Et son petit Arsène, qui a 5 mois.
6 mois.
6 mois ?
Oui.
Oh, déjà 6 mois.
Quasi 6 mois.
Quasi 6 mois, et oui. Et donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et je vais te présenter... Alors, pour l'instant, j'ai très peu d'éléments et c'est très excitant parce que je vais apprendre du coup plein de choses pendant cet épisode. Mais ce que je sais, c'est que tu m'as contactée sur Instagram... que tu as écouté beaucoup d'épisodes, d'après ce que tu m'as dit, et que tu es une amie de Delphine, qui est l'avant-dernier épisode, et qui est un très bel épisode d'ailleurs. Et donc vous êtes amies toutes les deux, et donc voilà. Te voilà aujourd'hui pour nous raconter votre histoire, l'histoire de la naissance de Arsène. Est-ce que tu veux te présenter à nous, voilà, de la façon dont tu le souhaites, et après, voilà, est-ce que tu peux nous raconter les prémices de l'arrivée de ce petit Arsène sur Terre?
Oui, alors c'est très excitant pour moi d'être là et puis d'être là avec, avec Arsène qui, à mon avis, avait aussi des choses à raconter aujourd'hui parce qu'il a toussé toute la nuit et donc j'ai préféré le prendre avec que de le laisser à quelqu'un d'autre. Et je crois qu'il est vraiment ravi d'être là. Donc moi, je m'appelle Léa, j'ai 30 ans. Je trouve pas ça facile de me présenter. Alors, ce que j'ai envie de dire, si je dois me présenter comme on se présente à l'école quand on est petit, donc je m'appelle Léa, j'aime le chocolat et j'adore me balader en forêt, ça je peux dire. Et je suis du coup la maman d'un petit Arsène qui a presque 6 mois, qui est venu chambouler ma vie. Et ouais, je suis contente d'être là, c'est un beau cadeau de Noël pour lui, pour moi, de revenir un petit peu sur cette grande période de notre vie. Alors, pour répondre à ta question, moi, je suis en couple avec François-Xavier depuis quelques années, je sais pas trop te dire combien. On est très amoureux. On s'est mariés en 2022, c'était très important pour lui de se marier. Pour moi aussi, mais quelque part, je lui avais dit que je l'aimais et voilà, j'étais assez sûre de moi. Pour moi, le vrai engagement, c'était plus de fonder une famille que de se marier, mais c'était important pour lui et c'est devenu important pour moi aussi. Et donc on s'est mariés en 2022 et puis on s'est dit dans la foulée, lançons-nous, quoi. Alors c'est marrant parce qu'au début, j'avais très envie de me marier enceinte. En fait, heureusement que je ne me suis pas mariée enceinte, parce que le début de ma grossesse a été quand même assez intense. Là, on s'est mariés entourés de tous nos proches, et puis on est partis en voyage de noces aux îles Féroé. C'était chouette, on est partis en train, en bateau. On a eu l'impression d'aller au bout du monde. Et puis là-bas, on s'est dit, c'est le bon moment pour nous, quoi. Alors, il faut savoir que moi, j'avais comme une conviction d'être stérile. J'avais l'impression que ça serait très dur. J'avais des cycles vraiment pas réguliers. J'avais aussi pas mal de douleurs dans le corps, des douleurs ligamentaires qui ont conduit à ce qu'on dise que j'ai une maladie qui s'appelle la maladie des nerfs dans l'os, qui n'est pas du tout une maladie très grave, mais qui fait mal aux ligaments et qui me donne des bleus. Et donc voilà, dans ce cadre-là, j'avais été consulter une gynéco assez longtemps à l'avance en lui faisant part de cette crainte d'être stérile et de ces douleurs que j'avais. J'avais aussi eu un bilan hémato un jour pas hyper bon. Donc voilà, il y avait cette question de est-ce que mon corps peut enfanter, est-ce que j'ai la force en moi pour le faire, je suis quelqu'un qui a pas eu beaucoup, enfin qui a pas beaucoup confiance en elle, maintenant ça va beaucoup mieux, mais à l'époque je me sentais fort illégitime, voilà, j'ai beaucoup été dans ce genre de questionnement et j'en voulais un peu à mon enveloppe corporelle, quoi. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était en moi pas complètement prêt pour accueillir la vie. Et en même temps, j'ai toujours eu très très envie d'avoir un enfant. J'ai toujours trouvé ça très instinctif. Voilà, il y avait une grosse dualité en moi qui fait que d'un côté, on s'est vraiment laissé porter avec mon amoureux. Quand on était à l'autre bout du monde, aux îles Féroé, et de l'autre, j'avais une angoisse en moi de ne pas y arriver, quoi. Et ça n'a pas tout de suite marché. Ça a pris 3 mois, donc en fait, ça a été assez vite. Ça m'a complètement surprise. Mais ça a été 3 mois où quelque part, je me disais, ah, tu vois, peut-être mon corps, il n'est pas vraiment fait pour ça. Et ouais, et donc voilà, mon homme par contre, il a toujours été super sûr. Il n'arrêtait pas de me dire, mais si ton corps est fait pour ça, on va faire des merveilleux enfants. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le jour où on a conçu Arsène, on était à Barcelone, et il m'a dit, c'est bon, t'es enceinte. Et vraiment, dans les minutes qui ont suivi, quoi, il m'a dit, c'est bon, t'es enceinte. Et puis alors, il n'a pas arrêté de me faire des blagues comme ça à Barcelone. On était dans la vieille ville de Barcelone. Et puis, il me disait, tu te rends compte, ça fait 2 heures que t'es enceinte, là. Et puis moi, j'étais là, mais arrête. on n'en sait rien. Et puis après, on est revenu en Belgique. Et moi, j'ai eu un mois de septembre hyper mouvementé. Parce que je suis partie quelques jours... avec mes parents, puis sans mon homme, puis je suis revenue, puis je suis partie pour le boulot à Madrid, et puis en fait dans la foulée j'ai été voir de la famille, donc en fait on est resté quasi un mois l'un sans l'autre, et on n'en a plus trop reparlé au retour de Barcelone dans mon souvenir, mais je me souviens très très bien qu'à Barcelone il n'arrêtait pas de me dire « ben voilà quoi, on va être trois, ça va être trop bien », il était comme ça hyper sûr de lui, et moi ben, de nouveau... J'y croyais pas, je voulais... J'avais d'ailleurs une prescription pour faire un bilan endométriose dans mon sac. Et puis arrivée à Madrid, j'ai eu un peu de sang. Je crois que j'ai eu le saignement d'implantation, mais à ce moment-là, je me suis dit que c'était mes règles qui étaient là. Et donc, je les ai accueillies. En fait, je j'ai rien contre mes règles. Je trouve que c'est... C'est un grand moment de force en nous. Donc quand j'ai cru que j'étais réglée, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est je retourne dans mon antériorité et puis ce sera pour une prochaine fois, quoi. Et donc, après ça, j'ai encore un peu fait la fête en Espagne. Je me suis pas trop posé de questions. Et puis, en fait, j'ai eu les saignements d'implantation et puis j'ai plus du tout eu de sang. Et je me suis dit, bon, ouais, c'est, ça va revenir, quoi. Puis le temps est passé et en fait je le savais en moi que j'étais enceinte. Je le savais et j'ai fait un rêve incroyable en Espagne parce que j'ai rêvé que j'arrivais comme ça dans ma chambre et que devant ma chambre il y avait un petit arbuste dans un pot et que les racines étaient en feu. Mais que l'arbre était énorme et il allait bien, il était vert, il grandissait. Et puis tout d'un coup, j'ai eu l'impression que, je sais pas, que j'avais un peu mis de l'ordre dans mes racines, que j'avais un peu, que je m'étais un peu réconciliée avec mon ancrage à moi, et que maintenant un arbre allait pousser et que l'arbre allait être beau et bien ancré. Et tu sais, on dit hein, que les incendies dans les forêts peuvent régénérer les sols et créer des forêts encore plus belles. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression que je sais pas, que j'étais régénérée et que les racines allaient être belles. Et à ce moment-là, j'ai su. Et à ce moment-là, moi, j'étais donc en Espagne avec de la famille. C'est marrant parce que j'étais qu'avec des femmes. J'étais avec ma cousine, qui est à mon âge, avec sa maman, que je vois très très peu, avec sa grand-mère, qui est comme une grand-mère pour moi, une de nos tantes, et un homme, le mari de sa grand-mère. Mais bon, j'ai vraiment un souvenir d'avoir été entre femmes à ce moment-là. Et puis un moment, ma cousine Charlotte, elle me dit « Non mais Léa, là maintenant, il va falloir faire un test. Parce que tu dis que t'as eu tes règles, tu les as pas eues. Et tu sais au fond de toi. » De nouveau, tu vois, avec un peu mes petites angoisses de pas être légitime ou de pas être sûre de moi. Je disais non. Et puis j'étais sans mon homme à ce moment-là. Et donc j'ai fini par... J'ai fini par quand même faire ce test. Et je me souviens, elle m'avait dit... elle est scientifique, moi pas du tout. Et je me souviens qu'elle m'avait dit, je t'en achète 3. Avec 3, il n'y a pas de doute. Si c'est oui, c'est oui, quoi. Et donc, le lendemain matin, mon homme n'était pas là, mais je suis quelqu'un de très impatient. Donc, je n'ai pas su attendre d'être de retour en Belgique. Et j'ai juste... J'ai fait le test. Il n'a pas fallu une demi-seconde pour que les 3 tests soient positifs. Et il était, je sais pas, 6h30 du matin, je m'étais réveillée juste pour aller faire pipi. Alors je l'ai réveillée, je lui ai dit, Charlotte, je suis enceinte. Elle m'a dit, bah évidemment que t'es enceinte, maintenant laisse-moi dormir. Et puis quelques heures après, enfin évidemment j'avais trop hâte que François-Xavier se réveille, mais en même temps je me disais, est-ce que je lui dis maintenant ou est-ce que j'attends d'être de retour en Belgique pour le lui dire? Mais tu vois, comme il avait eu cette certitude à Barcelone... Je crois qu'il savait. Et donc, je l'ai appelé. Je lui ai dit qu'il y avait des petits pieds qui poussaient sous mon bidou. Et il était fou de joie. Évidemment, les femmes de la famille m'ont vu descendre le matin même et elles avaient toutes compris. Et donc, en fait, toute ma famille a été au courant dès les premiers instants. On n'a pas du tout eu ce truc de « on le garde un peu pour nous et puis on le dit ». Parce que j'avais tellement peur que l'une d'entre elles le balance à tout le monde que je m'étais dit, bon, il vaut mieux que je le dise moi, à mes parents, à ma sœur, maintenant, plutôt que ça s'apprenne de manière un peu éloignée. Et donc, dès ce moment-là, tout le monde savait, quoi. Et ce qui est super cool, c'est que en fait, était présente Sandra, la maman de ma cousine Charlotte, que je ne vois jamais, elle vit en Italie. Notre famille est un peu éclatée, comme tu vois. Et je me suis rendu compte après que, en fait, Sandra, c'est elle qui était là quand j'ai eu mes règles. Et je ne l'ai pas vue beaucoup dans ma vie, hein, mais le jour où j'ai eu mes règles, je la retrouvais, j'allais la voir. C'est elle qui était là quand j'ai appris qu'Arsène allait. Enfin, c'était logé dans mon ventre. Et puis, elle était là à la fin de ma grossesse aussi. Aussi, à chaque fois, pour des raisons un peu anecdotiques, enfin. Elle venait voir sa fille en Espagne, enfin, c'était un peu compliqué. Et puis à la fin de ma grossesse, elle venait voir sa fille en Belgique parce que sa fille était en Belgique et pas en Italie. Donc voilà, un peu, de nouveau un peu compliqué, mais quelque part, c'est une femme qui était là, quoi. Et à toutes mes grandes périodes de femme, Sandra a été là. Et ce qui est incroyable, c'est que Sandra, elle a élevé sa fille... avec beaucoup de force. Elle a été parfois un peu isolée pour élever sa fille. Ça a été une maman solo pendant de longues années. Et c'est vraiment un modèle pour moi, cette femme. Elle ne le sait pas, je ne sais pas si elle entendra ce podcast, mais ça a été vraiment incroyable pour moi qu'elle soit là, quoi, à ces moments-là importants dans ma vie, hein, ces moments de femme. Donc voilà. Voilà comment on en est venu à créer Arsène. À ce moment-là, évidemment, je n'ai pas été faire mon bilan endométriose. Et j'ai eu une première forme de réconciliation avec mon corps, quoi. Je me suis dit, ça y est, quoi, mon corps, on est prêt et on avance dans une direction qu'on a choisie. Et on sent...
À tes souhaits, oh non.
J'ai l'impression que ma grossesse a été un cheminement vers moi-même, une traversée juste absolument incroyable, et un rapprochement de moi vers mon instinct. J'ai toujours été quelqu'un de très instinctive. Et là, c'était incroyable parce que, contrairement aux autres moments de ma vie où tu sais, quand t'es un peu instinctive et que t'es une femme et que t'exprimes fort tes émotions et tout, on va vite te dire t'es hystérique ou tu sais pas gérer tes émotions ou prends un peu sur toi et tout. Mais quand t'es enceinte, là, il y a comme une bulle de protection autour de toi. Être instinctif, c'est ce que tout le monde attend de toi. Alors, c'est génial d'être instinctif. Tout d'un coup, on te félicite d'être instinctif. On te dit, vas-y, reconnecte-toi à la femme sauvage en toi. Tout d'un coup, on parle plus d'hystérique. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas du tout eu ça. Et donc, je pense que ça m'a libérée. Et évidemment, aujourd'hui, j'en tire des leçons. Et je me rends compte que en fait, c'est une force, cet instinct qui est en moi et ces émotions qui s'expriment. Mais voilà, il a fallu que je sois enceinte et que je traverse tout ça pour me reconnecter à ces aspects-là de moi et à en être fière, quoi. Et donc, ma grossesse a été un chemin vers moi. Ça n'a pas non plus été super évident, pour plein de raisons. Déjà parce que ma sœur était enceinte en même temps que moi, mais malheureusement, elle a subi une interruption médicale de grossesse. Et donc voilà, ça a été... évidemment, c'était ma sœur. Ça a été très dur pour moi d'être à côté d'elle dans ces moments-là. Enfin, c'était évident pour moi d'être à côté d'elle, mais ça a été dur pour moi de... d'accepter que je donnais la vie et que à ce moment-là elle a donné la mort. Enfin, ça a été vraiment puis ça nous a un peu éloignés à ce moment-là. Enfin voilà, je crois qu'on n'avait pas les outils pour dialoguer comme on aurait pu. Je crois qu'il y a pas de mots en fait dans des moments pareils quand t'es deux sœurs et que t'en as une qui vit ça. C'est difficile de trouver une justesse. Voilà, parce que moi j'étais enceinte, c'était mon premier enfant. J'avais envie que ma grande sœur m'explique ce qu'elle savait parce qu'elle a déjà un autre enfant. Mais le dialogue était compliqué. Et du coup, moi j'ai pu être aussi un peu maladroite, je pense, avec elle. J'ai pas toujours su. J'ai pas toujours eu les bons mots. À un moment, j'avais envie qu'on fasse de la place aussi pour. Pour moi, pour mon loulou, j'en avais besoin, quoi, que tout d'un coup, on puisse aussi accueillir avec joie cet enfant qui allait arriver. Et elle n'a jamais voulu ne pas l'accueillir, elle avait de la joie, mais c'était évidemment dur pour elle d'avoir, à mon avis, ces émotions fortes et contraires en elle, d'à la fois perdre cette petite fille qu'elle attendait et à la fois accueillir ce petit neveu qu'elle avait envie d'accueillir, mais... Voilà, donc ça a été évidemment compliqué. Puis physiquement, ça a été compliqué pour moi. J'ai eu pas mal de nausées. Mais...
Oh, dis donc. Dis donc.
J'ai eu pas mal de nausées. À la limite, ça allait encore. Mais surtout, j'ai eu une énorme bronchite au mois de décembre. Une bronchite qui s'est pas jamais vraiment arrêtée, puisqu'en fait, le diagnostic final, c'est que c'était plutôt une bronchite asthmatique. Et donc, j'ai découvert que j'avais de l'asthme en étant enceinte. J'ai énormément toussé. Ça a été compliqué de trouver un traitement qui fonctionnait. Et à un moment, en toussant, je me suis pété une côte. Et donc, ça a été vachement douloureux. Ça, c'était au mois de décembre, janvier. Donc, j'étais enceinte de 3-4 mois. Et vraiment, c'était très difficile. Et j'en ai eu marre de cette relation un peu problématique avec mon corps. À un moment, je me suis dit, ça suffit. Ça suffit, je veux voir les choses différemment et je veux que ça se passe bien. Alors, je me suis mise à chercher tout ce qui pouvait m'aider à rendre ma grossesse bien. Et donc, j'ai contacté un nombre impressionnant de personnes pour faire plein d'activités enceintes. J'ai voulu faire du yoga prénatal. J'en ai fait avec une super doula qui s'appelle Claire et qui proposait de faire du yoga dans les bois. J'ai commencé à assister à des cercles de femmes. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Delphine. J'ai fait une retraite de yoga prénatal. Et tout d'un coup, en fait, les choses se sont enchaînées vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus heureux. Et là, c'est devenu incroyable. Là, c'est devenu incroyable parce que j'étais juste connectée à mon corps, à mon bébé. J'ai fait un hôtel à la maison avec des petites bougies. J'ai beaucoup dessiné. Je me suis fort... j'ai vraiment passé beaucoup de temps à faire des choses créatives et j'arrêtais pas de me dire, mais quelle force cet utérus, quoi! Quelle force de création, quelle force créatrice! Et à ce moment-là, j'ai vraiment adoré être enceinte. Ça m'a permis de traverser cette bronchite. Bon, j'ai eu un puff jusqu'à la fin de ma grossesse et parfois j'avais un peu peur que cette toux revienne. Mais quelque part, je l'ai plus accepté. Je me suis complètement détachée du milieu médical. Là où au début de ma grossesse, j'avais fait tout ce processus pour un peu comprendre ce qui se passait dans mon corps au niveau de mes douleurs articulaires et tout. Ben là, j'en avais marre. J'avais plus du tout envie d'entendre parler de médecin. Du coup, on a été voir une sage-femme. Et ça, quasi depuis le début de la grossesse, quelqu'un qu'on connaissait via. Et ça a surtout été ce suivi-là qui m'a beaucoup portée avec les cercles de femmes, quoi. Donc, j'ai vraiment eu un moment de... Là, c'est trop pour moi. Maintenant, il faut faire les choses différemment. Et j'ai fait les choses différemment, quoi. Ouais, donc vraiment à partir de janvier jusqu'au bout, je me suis vraiment entourée de femmes qui me faisaient du bien. J'ai laissé de la place à ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je me voyais donner naissance dans la forêt comme une biche. Et j'arrêtais pas de me reconnecter à cette image-là en me disant « Mais c'est incroyable cette puissance qu'on a en nous !» Et tout d'un coup, c'est très naturellement, c'est devenu clair que la naissance était juste un processus super naturel, que mon corps était fait pour ça, que je pouvais avoir confiance en moi, que je pouvais avoir confiance en mon bébé et que tout irait bien, quoi. Et j'ai juste laissé ces émotions-là m'envahir jusqu'au bout. Et c'est ça qui m'a beaucoup portée jusqu'à la fin de ma grossesse. C'était assez clair pour moi déjà au début de la grossesse que... Je voulais accoucher de manière assez naturelle, sans péridurale. Je savais pas encore pourquoi je voulais accoucher sans péridurale. Je crois pas que c'était une question de fierté. C'est juste que ça me semblait naturel de le faire sans trop de médicalisation. Maintenant, au début de la grossesse, pour moi, accoucher à la maison, c'était un truc de youku, hyper dangereux et qui risquait de mener à la mort de mon enfant. Et donc... Voilà, ça, c'était pas vraiment une option pour moi. Mais je me voyais donner naissance dans une maison de naissance, un truc un peu physio avec des sages-femmes. Faut savoir que ma maman a accouché sans péridurale, nous a toujours dit qu'elle avait des bons souvenirs de ses accouchements. Pour ma naissance, elle était accompagnée d'une grande amie à elle que je connais encore. Qui est sage-femme et qui, toute ma vie, en fait, dès que j'ai eu des petits soucis de femme, je l'ai appelée. Donc, ça m'a toujours paru tout à fait évident de donner une place importante aux sages-femmes. Mais j'étais pas dans un mood où j'allais accoucher à la maison. Et par contre, mon mari était assez inquiet par ces questions ces facteurs sanguins qui n'étaient pas super bons. Et donc, il était assez inquiet par le risque d'hémorragie. Et on voulait tous les deux, du coup, à l'époque, au début de ma grossesse, être accompagnés par une gynécologue qui savait ce que j'avais et qui pourrait nous rassurer et nous accompagner si je devais avoir une hémorragie. Le risque était vraiment au niveau de l'hémorragie de la délivrance. Donc voilà. Alors, face à ce risque-là, le fait que j'avais pas encore été enceinte, que j'avais pas encore donné naissance, mon homme, il me disait, bah oui, on peut accoucher dans une maison de naissance ou au cocon, mais moi, je veux pas te perdre. Donc, quelque part, je serais plus rassurée qu'on donne naissance à l'hôpital que dans une maison de naissance. Alors, on a pensé au cocon, mais là aussi, il y avait la question de l'admission au cocon, ou de l'admissibilité. En gros, est-ce que j'aurais pu, moi, aller... donner naissance là, compte tenu de ce petit facteur sanguin qui n'était pas très bon. Et finalement, en fait, on n'a pas fait les démarches pour savoir si je pouvais donner naissance là. On s'est dit, bon, bah, donnons naissance à l'hôpital, mais avec une sage-femme qui nous aura suivis depuis le début, soit en plateau technique, soit avec une sage-femme en tant qu'accompagnatrice, mais avec quelqu'un qui nous connaît, qui nous a rencontrés dans le sens le plus intime du terme et qui pourra être adéquate à ce moment-là, quoi. Mais par contre, pour moi, on donnait d'office naissance avec une gynécologue, quoi. Il fallait que ma gynéco soit appelée. D'ailleurs, c'était très important pour moi d'avoir un chouette contact avec ma gynéco. Et je l'aime beaucoup, hein. Ça reste une personne que j'apprécie et qui est vraiment super. Mais voilà, au début de la grossesse, pour moi, c'était évident qu'elle serait là, qu'on l'appellerait, même si je voulais quelque chose de naturel et sans péri. Et puis alors, j'ai cheminé et je me suis rendu compte, j'ai été vers de plus en plus. J'ai été de plus en plus proche de mon corps. Et vers la fin de ma grossesse, je voulais absolument donner naissance à la maison. Je trouvais ça juste naturel, à la maison ou en maison de naissance. Mais ouais, ça me semblait tout à fait OK, en fait. Tout d'un coup, je me suis dit, ben oui, en fait, on est faite pour ça. Enfin, notre corps est fait pour ça. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je dis pas, j'aurais sans doute pas accouché sans assistante médicale, je pense que j'aurais pas pris ce risque-là, connaissant le risque que j'avais, mais j'étais beaucoup plus ouverte à cette question-là, et ça me paraissait tout à fait idéal, et dans mes rêves les plus fous, je me voyais donner naissance, je te dis, comme une biche dans les bois, quoi. Et puis, mais bon voilà, on est resté sur le plan de base, mais on a quand même pas mal investi la relation avec la sage-femme. Et ce qui était chouette, c'est qu'en fait, mon homme, il est venu à absolument tous les rendez-vous. Vraiment tous les rendez-vous. Au début, j'ai dû faire une prise de sang. Il était avec moi pour faire la prise de sang, quoi. Il était super investi, c'était très très chouette. Il a très vite parlé à mon ventre, à Arsène. Enfin voilà, il est devenu papa dès le moment où je suis tombée enceinte, en fait. Et pour moi, ça a été incroyable de le voir devenir père comme ça. Et aussi d'être certaine qu'il y avait une relation qui se nouait entre eux, même avant de donner naissance, quoi. Et donc, je nous ai fait confiance, je lui ai fait confiance, j'ai fait confiance à ma sage-femme. Et on est resté sur le plan de base, mais... On s'est dit quand même, si on pouvait faire une grosse partie du travail à la maison, ce serait chouette. Et en fait, c'est ça qu'on a fait. Ce qui s'est passé, c'est que... je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que j'accoucherais d'office plus tôt, moi. On m'avait aussi un peu fait stresser avec la taille d'Arsène, en me disant que ce serait un petit bébé qui risquait d'arriver plus tôt. Qu'on risquait de ne pas me laisser dépasser le terme. Donc moi, j'avais comme ça l'impression que j'accoucherais d'office plus tôt. Tout le monde autour de moi pensait ça, d'ailleurs, au niveau de notre famille. C'était marrant parce que ma belle-sœur était aussi enceinte. On a eu vraiment quelques bébés autour de nous, là. Et elle devait donner naissance juste un mois avant nous. Et je sais pas, j'avais vraiment l'impression que... elle accoucherait deux semaines plus tard et que j'accoucherais deux semaines plus tôt et qu'en fait, ces petits auraient le même âge. C'était un peu marrant. Je trouvais que cette date n'était pas correcte, mais en même temps, la date qui nous avait été annoncée, c'était le 3 juin, qui est la date de notre mariage. Donc je trouvais en même temps que c'était juste merveilleux, quoi, que c'est un petit bébé d'amour qui allait naître autour de notre mariage. Mais voilà, j'avais cette sensation qu'il arriverait avant, ce qui n'a pas du tout été le cas finalement. Et en fait, ce qui s'est, j'ai commencé à ressentir que ça travaillait dans mon corps dès la fin du mois de mai. J'avais beaucoup de douleurs de règles la nuit. Il y avait vraiment des nuits, mais je savais pas ce que c'était qu'une contraction à ce moment-là. Il y avait vraiment des nuits où j'avais l'impression que voilà, ça y était, quoi. Et puis je m'endormais. Et puis, le lendemain, je me réveillais, j'avais plus rien. Je me souviens que je me disais, mais... Enfin, il y avait un truc comme ça qui revenait, où je me disais, mais est-ce que je vais vraiment me rendre compte que j'accouche? Ou bien est-ce que je risque de m'endormir, de pas voir que c'est là, et puis en fait, de me réveiller le lendemain matin, et le moment serait passé, et juste, j'ai loupé le moment. Enfin, j'avais un peu une impression super... super irrationnelle, comme ça, où je me disais, mais... Enfin, j'avais hâte d'être surprise, et en même temps... Enfin ouais, c'était l'inconnu, quoi. Mais moi qui suis d'habitude quelqu'un de super impatient, j'ai découvert une énorme patience en moi. J'étais juste... connectée à lui, quoi. Je me disais, en fait, non, j'ai pas du tout... J'arrêtais pas de me dire, j'ai pas vraiment l'impression d'attendre parce que je le sens. Il est déjà là. J'attends rien du tout, en fait. Il est déjà là. C'est juste, ça va changer, ça va se transformer. Mais je ne l'attends pas, je sais qu'il est là, il va arriver, et en fait, il viendra quand il aura envie de venir, quoi. Et donc ça, c'est déjà un autre truc qui m'a un peu impressionnée, c'est que je pouvais avoir confiance en lui, et qu'il allait choisir son moment, et qu'à deux, on ferait une fine équipe. Et en fait, c'est le premier enseignement qu'Arsène m'a apporté, c'est qu'il m'a donné de la patience, malgré moi, parce que pour moi, c'était même pas de la patience, j'étais juste... juste bien, quoi, dans le moment présent. Alors même que je pensais que j'accoucherais plus tôt, j'étais OK, quoi. Je me souviens d'ailleurs, un jour, ça travaillait dans mon ventre, et je marchais dans la rue, et puis quelqu'un m'a dit « Ouh là là, mais c'est pour bientôt !» Et je me souviens de lui avoir dit « Oui, oui, je pense que c'est pour aujourd'hui. » Et en fait, pas du tout. Il est venu genre 10 jours plus tard. Donc voilà, ça a beaucoup travaillé dans mon ventre, mais j'étais en paix avec ça. Il faisait beau... ma copine Delphine a donné naissance grandiosement à la maison et je trouvais juste ça merveilleux et voilà, j'étais vraiment dans des belles émotions, j'étais bien, quoi. Et puis le terme est passé et là il y a quand même eu un peu d'angoisse qui est venue parce que tu sais, avec le terme qui est dépassé, on commence à te parler de la potentialité qu'on te déclenche. Mais moi je voulais vraiment une naissance super naturelle. J'étais convaincue que le corps était fait pour donner naissance naturellement, à son rythme, au rythme du bébé. Je l'avais dit à tous les amis de mon homme. En mode, non mais vous n'y comprenez rien, vous les hommes, mais c'est en nous en fait, on sait accoucher, on n'a pas besoin de tous ces médecins qui viennent nous dire comment faire. C'est d'ailleurs pas eux qui nous accouchent, c'est nous qui donnons naissance, quoi. Et je me souviens d'avoir vraiment tenu beaucoup, beaucoup ce discours. Et puis le terme passe, et ça n'a toujours pas commencé, et je risque d'être déclenchée, quoi. Et ça a été dur pour moi parce que je voulais vraiment éviter d'avoir à médicaliser cette naissance. Et donc, j'ai essayé le plus possible d'appeler Arsène. déjà, c'était important pour moi que mon homme et moi, on passe beaucoup de temps ensemble, quoi. Et c'était pas à refaire, je crois que je referais pas ça comme ça, parce que quelque part c'était pas super naturel, le fait de vouloir absolument être tout le temps ensemble, au cas où ça commencerait. Et ce qui est marrant, c'est que ça a commencé le seul moment de la semaine où on n'était pas ensemble, puisque j'ai été chez une acupunctrice, ici tout près d'ailleurs, et puis j'ai été manger avec une copine. Et en mangeant, j'ai senti que ça travaillait, mais je me vois encore lui dire « Non, mais tu sais, ça fait des semaines que ça travaille, on verra. » Et en fait, j'ai passé une excellente soirée avec mon amie. On s'est trop marré. On a été boire un verre après. On n'arrêtait pas de rire et tout. Et juste, les contractions ont continué. Et j'ai accueilli ça avec beaucoup de légèreté. Et je me disais, ah bah, on verra, quoi. J'espère que si je m'endors, j'aurai pas loupé le coche. Mais je me laisse aller dans ce qui doit venir. Dans ce qui vient ce soir-là. On est le soir du 8 juin 2023 et je sens tout doucement que Arsène se met en mouvement. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ce soir-là, je lis un bouquin qui s'appelle « Sexe, identité et transmission dans le judaïsme ». Parce que moi, je suis d'origine juive. Et mon homme est catholique, et donc voilà, ça a fait partie des grandes questions quand on a décidé de faire un enfant. Parce que bah pour moi, le judaïsme est quelque chose de très intime et important pour moi, même si je donne sans doute pas la même place à cette dimension-là de moi qu'une personne très croyante. Voilà, ça fait partie de mes traditions, ça fait partie de mes origines, c'est important pour moi. Mais c'est intime, je sais pas vraiment le dire autrement. Ça a été quelque chose qui a fait fort partie de notre couple, dont finalement on a très peu parlé à l'extérieur, mais qui est vraiment importante, quoi. Et donc je lis ce bouquin et au moment où je ferme ce bouquin, et je me souviens parce que j'ai pris une photo de la dernière page parce que je trouvais ça beau ce que Delphine Orwiller, qui a écrit le bouquin, disait. Au moment où je ferme la page, je sens des contractions un peu plus fortes. Et là, je me dis... En fait, là, je me dis rien du tout. Je me laisse juste vivre et je me laisse embarquer, quoi. Et... Ouais, embarquer, c'est le bon mot. Je commence clairement à avoir des bonnes contractions, des fortes contractions. Et dès que ça vient, je me mets à quatre pattes et je vocalise, quoi. Et donc je grogne dans ma chambre. Et j'accueille vraiment ces contractions vraiment comme des vagues. Et c'est marrant parce que vraiment, j'avais demandé plein de fois à ma sage-femme, mais... C'est comment ? Elle m'avait dit, mais c'est comme des vagues. Et moi, je me disais, mais franchement, quoi, sur toutes les explications, t'en as pas une un peu plus concrète ? Et en fait, c'est la meilleure explication qui soit. Moi, j'ai vraiment vécu ça comme des vagues. Et j'avais un mantra comme ça que j'arrêtais pas de me répéter. J'arrêtais pas de me dire, je peux pas me noyer, je suis la vague. Je peux pas me noyer, je suis la vague. Et j'ai eu l'impression de naviguer comme ça entre les vagues. C'était doux, c'était beau, j'ai adoré. Enfin, bien sûr que c'est intense, bien sûr qu'on le sent dans tout le corps, mais juste, c'était la plus belle intensité que j'ai jamais ressentie de ma vie. Et j'avais des contractions toutes les 7 minutes, toutes les 10 minutes, toutes les 3 minutes, toutes les 15 minutes, donc c'était tout à fait irrégulier, mais c'était fort en intensité, quoi. Mais c'était doux et c'était beau. Ouais, c'était très beau de... Là, je sentais qu'il y avait un truc qui se passait, que je devenais femme sauvage. On a même fait l'amour avec mon homme cette nuit-là. On était bien. Il m'a coulé un bain un moment dans la nuit. Et je me souviens pas très très bien de l'ordre dans lequel les choses se sont passées. Je me souviens juste qu'il y avait une belle bougie dans la salle de bain. Je me souviens que ça n'a pas désamplifié. Et j'aurais tendance à penser que je me serais dit « Ah, ça y est, c'est parti, ça y est », mais j'étais pas du tout dans ce mood-là. Je me suis juste dit « Ok, on accueille, quoi. » Mais il y avait juste un truc qui me stressait un peu de base. C'était le trajet que j'allais avoir à faire jusqu'à l'hôpital, qui était l'hôpital Erasme. Et j'avais une heure de route. Et j'avais pas envie que ça me prenne la tête. Donc j'ai essayé de pas trop me poser la question le moment venu. Mais vers 6-7 heures du matin, donc quand le soleil se levait, je me suis juste dit, faudrait peut-être qu'on y aille parce que je voudrais pas être bloquée dans la voiture, voilà. Et donc là, j'ai compris après qu'il avait déjà eu des contacts avec ma sage-femme, que c'était ma sage-femme qui lui avait dit « va lui couler un bain » et tout. Et là, il l'a appelée et elle m'a dit « écoute Léa, c'est très irrégulier, ce sera sans doute pas pour aujourd'hui. » Et là, moi, tu vois, le stress, l'intensité... elle m'a dit ça et j'ai pleuré, quoi. Et puis elle m'a dit, mais t'en fais pas, je viens. Et tu vas voir... Désolée, j'ai mon bébé qui grince parce qu'il s'endort, là, tout contre moi. Elle m'a dit, je viens et ne t'en fais pas. Ça va s'accélérer, mais ce sera pas plus intense. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de regarder l'heure. C'est le bruit qu'il fait quand il essaye de s'endormir. Elle me dit, Léa, tu t'en fais pas, ça va s'accélérer, mais ça va pas s'intensifier. Et donc, voilà, j'ai juste continué à me dire, je peux pas me noyer, je suis la vague. Ça va s'accélérer, mais ça va pas s'intensifier. Et ça m'a fait du bien. Et en fait, je me suis laissée aller dans cette intensité-là. J'ai accueilli. J'ai complètement perdu la notion du temps à ce moment-là, mais vraiment là, le soleil était levé, ça je savais, mais dans la chambre, les rideaux étaient fermés, donc j'avais vraiment l'impression d'être dans ma grotte, dans ma bulle, je me mettais à quatre pattes à chaque contraction, et puis je me rallongeais, je dormais entre les contractions, j'ai l'impression d'avoir été vraiment au plus près de moi à ce moment-là. Et quand ma sage-femme est arrivée, elle m'a examinée et elle m'a dit c'est très bien, voilà, continue. J'ai su après que j'étais à 1,5 cm de dilatation. Et donc autant te dire que, voilà, qu'on aurait pu penser qu'il y avait encore un long chemin devant moi. Mais elle est restée près de moi. Elle a dit à mon homme, va te reposer parce que, lui était explosé. Elle m'a dit, va te reposer et je reste près d'elle. Et elle a été super, elle me massait, elle était juste là. Enfin, être avec une femme, une sage, je ne sais pas le dire autrement, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien à ce moment-là, quoi. À un moment, elle m'a dit, tu veux pas qu'on descende un petit peu Donc, on est descendu dans mon salon où il faisait super lumineux. J'ai vraiment une image de... soleil dans ma maison, j'avais une grande robe bleue, je me sentais super belle, j'étais bien, j'accueillais tout ce qui venait, quoi. J'ai vomi plusieurs fois, mais j'étais ok, je me disais juste, je m'ouvre, je me laissais m'ouvrir, quoi. Et c'est marrant parce que, en fait, entre chaque contraction, tu peux parler, quoi. Tu peux vraiment... discuter et réfléchir et avoir des chouettes discussions. Et j'ai le souvenir comme ça qu'on discutait bien avec ma sage-femme à ce moment-là. Je me souviens que je lui avais dit que je la réinviterais pour manger un bout parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Enfin, c'était un moment assez naturel et clairement c'était intense à chaque vague. Mais c'était beau, c'était plein de joie, quoi. J'avais du coup pas du tout la notion du temps. J'ai demandé qu'on me montre pas les horloges, donc qu'on me protège un petit peu de ça, qu'on me donne aucune indication. Je voulais pas savoir à combien de centimètres j'étais. Et je suis vraiment super contente d'avoir demandé ça parce que je crois que ça m'a permis d'être au plus près de mes émotions. Voilà, j'avais évidemment dit à mon homme que j'avais envie d'accoucher comme une biche dans la forêt. Et alors... c'est un peu devenu une blague entre nous. Il arrêtait pas de me dire « Vas-y, ma biche. Tu peux le faire, ma biche. » Mais il dosait. Il savait qu'il y avait des moments où il pouvait me faire des blagues et puis des moments où j'avais juste besoin d'être dans cette intensité. Donc, il me l'a fait quelques fois. Et puis, parfois, il me disait juste... je sentais que ce qu'il disait en mettant ses mains sur moi, en m'accompagnant, c'était « Tu le fais bien, quoi. Tu le fais super bien. Tu le fais merveilleusement bien. » T'es bien dans ton corps. Et c'était juste ça que j'avais vraiment besoin de ressentir et d'entendre. Donc le fait d'être complètement déconnectée de toutes les notions chiffrées, ça me faisait du bien. Et ce qui m'a fait aussi beaucoup de bien, c'est qu'à un moment, je grogne hein, en faisant ma... Enfin, en laissant la vague m'envahir. Puis je regarde ma sage-femme et je la vois sur son téléphone en train de grogner avec moi. Et en fait, à chaque fois que je vocalisais, elle vocalisait avec moi. Alors, en même temps, je sais pas, elle répondait à ses messages, elle lisait un bouquin. Mais je la voyais même pas, quoi. J'étais dans mon monde, mais j'étais accompagnée, elle était là. Et puis, du coup, à un moment, je repleure et je revomis. À chaque fois que je vomissais, elle me disait « C'est bien, tu t'ouvres. » Et là, elle me dit « Tu t'ouvres quand même un peu beaucoup. Je vais refaire un toucher si tu es d'accord, parce que j'ai l'impression quand même que t'es dans une autre dimension, là. » Et alors, elle a fait un toucher et elle m'a dit « Il faut qu'on y aille maintenant. » Et j'ai appris après que j'étais, qu'elle avait mesuré que j'étais à 9 cm de dilatation et il était 12h30. Donc j'ai fait le gros du travail à la maison. C'était incroyable parce que je me souviens, là j'ai été de nouveau un peu plus dans des considérations plus rationnelles, mais je lui ai juste dit « est-ce qu'on a le temps d'aller jusqu'à Erasme ?» Elle m'a dit « oui, pas de souci. » Je lui ai demandé qu'on aille plutôt avec sa camionnette comme ça, et que ce soit plutôt mon homme qui conduise, comme ça moi j'avais un peu plus de place. Donc mon homme a conduit, elle s'est mise à côté de moi dans la voiture. Elle me massait le bas du dos, elle m'a dit comment me tenir. Et en fait, j'ai un souvenir trop heureux de ce trajet. J'étais tellement fière, quoi. Je sais pas le dire autrement. C'était super gai, quoi. On était dans cette voiture. Je n'étais pas trop sûre de l'heure qu'il était. Mon homme, à un moment, me dit qu'il fallait qu'il fasse des pâtes pour manger à midi. Donc, je savais qu'on était plus ou moins autour de l'heure de table. J'avais évidemment pas très faim. Et donc, on est dans cette voiture et je vois que... Tu vois, j'étais dans l'autre sens, dans la voiture. Donc, j'avais vu sur les fenêtres de la voiture et je vois juste les arbres qui passent et le ciel bleu. Il faisait super beau. Et j'étais avec ma grande robe bleue. Je me sentais bien, quoi. Et je trouvais ça drôle. Alors, après coup, je pense que je peux dire que les contractions se sont un peu arrêtées à ce moment-là. Ça a été beaucoup plus... j'étais moins dans mon corps que si j'avais été à la maison. Je suis pas certaine que c'était nécessaire de trop se presser. Mais à un moment, il y avait des petits embouts et moi, je sentais que ça allait me paniquer un peu. Donc j'ai dit à mon homme, non, mais là, il faut que tu prennes la bande d'arrêt d'urgence. Et donc, il a pris la bande d'arrêt d'urgence. Et je sais pas, ça m'amusait, quoi. C'était un heureux moment. Et quand on a dû se rabattre comme ça sur la bande principale, je me souviens qu'il y a un mec qui nous a fait un commentaire. Et en fait, j'ai ouvert la fenêtre et je lui ai dit « Mais monsieur, moi, j'accouche, là. » Et alors, il m'a dit « Oui, c'est ça, et moi, je suis la reine d'Angleterre. » Et puis, en fait, on a juste continué notre chemin. Et je me souviens avoir dit « Mais c'est quoi ce con ?» Et ma sage-femme m'a répondu « Non, mais ocytocine. Ocytocine, Léa. On laisse l'adrénaline de côté. Reviens dans ton corps. » Donc, c'est vrai que c'était à la fois un heureux moment, mais aussi un moment qui m'a sans doute un peu freinée là où j'en étais. Arrivée à l'hôpital, une des choses qui m'angoissait un peu, c'était d'avoir à traverser le hall principal d'Erasme où il y a vraiment plein de gens, plein de bruit, plein d'odeurs qui sont pas toujours agréables. Et en fait, finalement, on est arrivé par une autre entrée, puisqu'on est arrivé par l'entrée professionnelle via le pass de ma sage-femme. Et donc voilà, il y a eu des choses comme ça qui se sont mises en place un peu malgré moi. Je me voyais donner naissance dans un endroit assez feutré, mais on était en plein jour. Et en fait, on a eu la seule chambre de la maternité où il n'y avait pas de fenêtre. En fait, normalement, c'est une chambre où on n'accouche pas. C'est une chambre qui a été créée pour les césariennes d'urgence, donc pas un truc méga sympa. C'était vraiment, vraiment pas la salle nature que j'avais imaginée. Mais ça m'a hyper bien convenu, quoi. Au début, c'était un peu bizarre parce qu'on n'arrivait pas à éteindre les lumières. Et moi, je n'arrêtais pas de dire « éteignez les lumières », on ne trouvait pas de monito sans fil. Enfin voilà, ça a été un peu une installation un peu rock'n'roll où j'arrêtais pas de me dire quand même « l'hôpital, c'est nul, c'est vrai que c'est plein d'adrénaline, c'est embêtant d'avoir toutes ces lumières dans les yeux et tout ». Mais finalement, en fait, moi, j'avais pris ma lampe de sel avec. Et donc, on a su reproduire un cocon. Et dans mon souvenir, il y a vraiment... Mon homme, ma sage-femme, une étudiante sage-femme qui était la petite main un peu dans les coulisses, et moi. Ma sage-femme, elle n'était pas là comme, euh, comme sage-femme sur plateau technique, elle était là comme accompagnatrice. Et donc, elle n'était pas censée faire des actes médicaux. Mais ce jour-là, en fait, si j'ai eu cette chambre-là, c'est parce qu'il y avait énormément de personnes qui donnaient naissance en même temps et que les hôpitaux sont un peu sous-staffés. Donc, il n'y avait personne pour rester avec moi non-stop à part elle. Et cette étudiante qui, je pense, ça devait être son premier accouchement. Donc, elle était gentille, mais elle était gentille, mais elle était peut-être pas aussi adéquate que quelqu'un en formation depuis longtemps. Enfin, ou avec moi, le courant passait pas super bien. À un moment, je lui ai demandé de se taire. Et si un jour elle écoute ce podcast, j'en suis désolée. Mais j'ai été assez cash avec elle. Mais mis à part ça, j'arrivais à retrouver cette ambiance avec ma sage-femme en qui j'avais confiance, mon homme, et à me sentir proche de mon corps. C'est vrai que l'hôpital est une institution et que j'ai ressenti que cette institution était présente et que je pense que ça m'a quand même un peu refroidie. Et donc on arrive dans cette pièce, on cherche à éteindre les lumières, ça met un petit peu de temps, on finit par y arriver, on branche la lampe de sel, on finit par trouver... des monitos sans fil, et donc j'essaye un peu comme je peux de retourner dans ma bulle, mais c'est vrai que dans mon souvenir à ce moment-là c'est un peu différent qu'à la maison. À la maison j'étais super heureuse, même dans la voiture j'étais super heureuse, super bien dans mon corps. Là à l'hôpital j'étais un peu plus inquiète, il a fallu que je retrouve un peu plus mes marques. Et donc j'ai tout de suite demandé si je pouvais pas aller dans un bain, parce que moi j'ai un rapport à l'eau que je trouve assez fantastique. Enfin, j'ai toujours adoré l'eau, j'ai nagé très vite dans ma vie, c'est quelque chose, enfin l'eau est un élément qui me fait du bien, j'adore l'odeur de la pluie, j'adore entendre la pluie tomber, et j'adore nager. Et donc ça a été un peu pour moi un moyen de retrouver cette bulle dans laquelle j'essayais de me mettre. Et heureusement, normalement quand on est à quasi dilatation complète, à Erasme en tout cas, c'est pas évident de convaincre de pouvoir prendre un bain apparemment. Mais là on m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, et j'ai pu prendre un bain avec mon homme, donc dans une énorme baignoire. Et de nouveau, j'ai pris ma petite lampe de sel, je l'ai mise, enfin moi pas, c'est ma sage-femme ou mon homme qui le faisait à chaque fois, mais on a recréé ce moment un peu feutré. Et donc dans mes souvenirs, il y a vraiment la luminosité de ma maison, et puis alors il y a l'intériorité de ma chambre, et l'intériorité de cette salle d'eau, et l'intériorité de la chambre où j'ai finalement donné naissance à Arsène, parce que j'ai pas accouché dans l'eau. Et ces souvenirs-là me font du bien, quoi. Ce souvenir un peu ocre, chaleureux. J'étais clairement à l'intérieur de moi. J'étais bien, quoi. Et dans ce bain, je me suis juste laissée aller. Et j'ai senti que je perdais les os dans l'eau. Ce que j'ai trouvé a posteriori assez beau. On avait notre musique. Et donc, j'étais vraiment bien. Et quand j'ai perdu les os, j'ai eu l'impression que ça poussait un peu. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose, effectivement, dans mon vagin. Et je l'ai dit à ma sage-femme qui m'a dit « Mais ton bébé est là, faut sortir de l'eau, quoi. » Et donc je l'ai suivi, je suis sortie de l'eau, on a été dans la chambre à côté. Et là, il y a eu 2 heures un peu particulières, parce que je me suis mise à 4 pattes et j'ai cherché à pousser. Et j'y suis pas arrivée. Dans mon souvenir, c'est comme si on m'avait fait pousser. C'est comme si on m'avait dit comment pousser. J'ai eu l'impression que je savais pas pousser. Qu'on me disait que je savais pas pousser. Après coup, je regrette même de parler du fait de pousser. Parce que je me suis rendu compte bien plus tard qu'il fallait pas pousser. Mais sur le moment-là, j'ai cru que je devais pousser et que j'y arrivais pas. Et à un moment, ma sage-femme, qui franchement, je pense qu'elle essayait de faire vraiment comme elle pouvait, elle me dit t'as peut-être besoin de ton puff. Et en fait, qu'elle ait dit ça, j'ai ressenti qu'elle-même se disait elle y arrive pas. Et puis après, j'ai ressenti, parce qu'en fait, quand tu donnes naissance, tu ressens tout. Tu crois que t'es ailleurs et que t'es dans ta bulle et tout. Mais tu es tout à la fois tellement connecté à tout ce qu'il y a autour de toi, quoi. Et plus ça avance, plus tu te déconnectes, tu vois. Plus ça avance, plus tu es ailleurs. Et plus tu es tellement en toi que tu ressens tout. Enfin, j'ai vraiment ressenti que... Ouais, bah déjà que j'avais, que je partais dans une autre dimension. Enfin, j'ai vraiment eu une altération de ma conscience, mais en plus une ultra conscience de tout ce qu'il y avait autour de moi. Et donc j'ai ressenti que ma sage-femme a perdu un peu pied, et j'ai ressenti aussi qu'il y a eu, je sais pas, une discussion entre la sage-femme de l'hôpital et ma sage-femme à moi. Autour justement du fait que je sois sortie du bain et qu'on m'ait invitée à pousser à ce moment-là. Et en fait, après une heure, enfin dans mon souvenir, c'était une heure ou deux, je ne sais même pas, mais après un bon moment, ma sage-femme m'a réexaminée et elle m'a dit « Écoute, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais le col s'est refermé un peu. » Et moi, je me suis dit « Mais... » Enfin, en fait, j'ai complètement perdu confiance en elle à ce moment-là. Je me suis dit... Qu'est-ce qu'elle a foutu? Elle m'a mal examinée. Enfin, j'ai un peu personnifié ce qui n'allait pas en elle. Et tout d'un coup, je me suis dit, ben voilà, enfin, ça n'ira pas. Ça ne va pas aller. Je n'étais pas connectée à mon bébé à ce moment-là. J'avais l'impression d'avoir un berlingot entre les cuisses. C'était vraiment difficile. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je n'étais plus vraiment dans mon corps. Et surtout, je ressentais qu'on n'avait plus confiance en moi et qu'on ne croyait pas en moi. C'est un peu ça que j'ai ressenti. Enfin, mon homme, je pense, il a toujours cru en moi. Je ne suis pas certaine qu'il avait à ce point la réflexion autour de ce qui se passait qu'en fait, moi, à ce moment-là. Mais moi, j'ai complètement perdu pied, en fait, à ce moment-là. Et là, je me disais, je vais me noyer. Je vais me noyer, ça va faire mal. Tous ces hommes à qui j'ai dit que la naissance était un processus super naturel et tout auront eu raison de moi. Je vais devoir admettre que moi, ben, j'avais besoin d'aide parce que là, ça fonctionne pas, quoi. Il y a un truc qui bloque, ça fonctionne pas. Et j'ai complètement perdu pied. Et en moi-même, je me disais, ben, si ça continue comme ça, ça va juste être ultra douloureux. Et donc, parce que je me disais, on va venir le chercher avec des forceps, ça va pas aller. Et donc, je suis retournée sur la table où d'habitude, enfin la table qui est au milieu de la chambre d'hôpital, j'étais par terre. Je me suis mise à quatre pattes et je me suis vraiment laissée chavirer. Et alors, j'ai dit... Bon voilà, il faut me donner une péridurale ou une césarienne. Et moi, j'étais convaincue dans ma tête qu'il fallait le sortir de force, quoi, que ça n'irait pas. Et en fait, personne, vraiment personne n'a contesté ma demande. Donc moi, j'avais bien écrit dans mon projet de naissance, ne me parlez pas de la péridurale, je sais qu'elle existe et si je la demande, je veux que ça vienne de moi. Et donc, quand j'ai dit ça... Je pense qu'on s'est dit, bah, elle sait ce qu'elle fait, quoi. Et en fait, j'ai ressenti une grosse déception et beaucoup de colère à ce moment-là. Et oui, je te dis, j'ai l'impression que je chavirais un peu, que j'étais perdue, que je m'abandonnais. J'ai vraiment eu la sensation de partir, quoi. Et il y a un truc qui m'a fait du bien, c'est que ma sage-femme, elle est venue à côté de moi, et elle m'a dit un truc du style, non Léa, là, en fait là tu peux pas partir. Là c'est lancé, ça va se passer, et ça commence maintenant pour une très très longue période. Reviens quoi, reviens à nous. Et en tout cas c'est le message que j'ai reçu à ce moment-là. Mais ça a été dur parce que moi j'avais l'impression d'être... Tu vois, je t'avais dit hein, que j'avais envie d'accoucher dans une forêt comme une biche. Là, j'avais l'impression d'être coincée au milieu d'un désert. Il faisait chaud. Il faisait super, super chaud. Et j'arrêtais pas de dire, j'ai chaud. J'ai chaud, donnez-moi de l'air, donnez-moi de l'eau. J'ai chaud, j'ai chaud. Et tu vois, dans ma tête, ça tournait en rond, j'avais chaud, j'étais bloquée au milieu de ce désert, j'arrivais pas à avancer, j'arrivais plus, j'allais pas y arriver. Et donc, quelque part, je me disais, où sont ces anesthésistes ? Et ce qui est fou, c'est que, après coup, je peux te dire que c'est pas la douleur qui m'a fait appeler des anesthésistes. C'est pas ça, c'est ce qui se passait à l'intérieur de moi qui était d'une intensité telle que j'avais l'impression que j'allais juste pas y arriver et qu'il fallait m'aider. Et puis après, il s'est passé un truc absolument formidable, c'est que les anesthésistes sont jamais arrivés. Je sais pas combien de temps ça a pris pour qu'ils arrivent finalement, mais à un certain moment, donc là j'étais à quatre pattes sur la table, bloquée dans mon désert, hein. Et puis à un moment, je sais pas, j'ai repris le dessus, et je me suis retournée, je me suis dit, bah, en fait, je vais juste me laisser aller, quoi. Je vais me laisser aller, et puis on verra, et toujours, j'avais un peu l'impression que j'allais pas y arriver. Il y avait toujours une question en moi de est-ce que vraiment je peux faire ça? Mais tout d'un coup, j'ai complètement lâché. Tout d'un coup, j'ai complètement lâché. Je me suis mise de la manière dont je me sentais le mieux. Ce serait faux de dire que j'étais en pleine confiance à ce moment-là. On est ultra vulnérable hein, quand on donne naissance. Et puis j'avais toujours cette question autour de est-ce qu'on a confiance en moi dans cette salle? mais tout d'un coup, j'ai lâché mon propre corps. J'ai l'impression d'avoir eu une forme de décorporation. Le souvenir que j'ai encore de ce moment-là, c'est moi au-dessus de moi. Je me vois en pleine puissance, un moment reprendre tout en main. J'ai foutu mon pied sur mon homme. J'ai foutu mon autre pied sur cette pauvre étudiante sage-femme qui en a bien bavé avec moi. Je me suis agrippée au lit, donc il n'y avait pas de liane, il n'y avait pas tout ce que je pensais qu'il y aurait, mais j'ai fait avec les moyens du bord, et donc la sage-femme de l'hôpital à ce moment-là était dans la pièce, et elle a attaché des draps autour du lit pour que je puisse me pendre au lit, et en fait à ce moment-là j'ai mis mon pied sur l'un, mon pied sur l'autre, je me suis agrippée aux lianes, et j'ai laissé toute la puissance de mon corps faire ce qu'il fallait qu'il fasse. Et ouais, je sais pas si le mot c'est j'ai poussé, mais j'ai laissé Arsène arriver. Et à ce moment-là, la gynéco est venue. Elle m'a dit voilà, je viens parce que les anesthésistes sont enfin là. Je peux vous examiner, mais moi vulnérable, en train de en fait donner naissance, je lui dis encore oui, allez-y. Et puis elle me dit mais enfin madame, votre bébé est là. Vous voulez vraiment la péridurale? J'étais là. Non. Et en fait, j'ai une image. Tu vois, c'est trop marrant parce que je sais très bien que la porte était à ma droite et que devant moi, il y avait un mur. Mais j'ai une image d'une porte devant moi, très très loin de moi, comme ça. Et une impression qu'il y avait des banquiers avec des petites mallettes, comme ça, devant la porte qui voulaient rentrer et à qui je disais « Non, surtout ne rentrez pas !» Et en fait, j'ai dit non aux anesthésistes, ne rentrez pas, et je me suis mise à donner naissance sans péridurale, en toute puissance, et complètement dans un truc un peu chelou, parce que j'ai l'impression que j'étais vraiment ailleurs, quoi. Le souvenir que j'ai, c'est moi, au-dessus de moi, qui voit les anesthésistes, qui, dans mon souvenir, ressemblent à des banquiers, dehors, qui dit non à la gynécologue, et qui se laisse aller, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis laissée aller. Je n'ai plus écouté rien de ce qu'on me disait. Je pense que d'ailleurs, c'était assez chaotique, parce que je me souviens juste qu'on me disait... Enfin, je sais pas si c'est un souvenir raconté ou si c'est vraiment comme ça dans ma tête, mais je pense qu'on n'a pas arrêté de me dire « Attends la contraction! Attends la contraction !» Mais moi, à ce moment-là, je ne parlais à plus personne. J'étais juste dans mon corps et je faisais ce que mon corps me dictait de faire. Et c'était peut-être chaotique, c'était peut-être pas exactement comment fallait faire, mais je le faisais, quoi. Et je me suis laissée aller jusqu'à ce qu'il soit là. Et oui, j'ai senti le cercle de feu. Donc les allées est venues de la tête d'Arsène... entre mes lèvres, et oui, c'est vrai que ça fait mal, j'ai l'impression que c'est presque la seule douleur que j'aurais pu imaginer vraiment avant, Mais je garde un souvenir assez incroyable de ce moment-là parce qu'en fait, juste, je l'ai fait, enfin, je le faisais, on le faisait, on faisait une équipe formidable tous les deux. Arsène, il a été le meilleur coéquipier que je puisse rêver avoir à ce moment-là. On a fait ça ensemble, on s'est rencontrés à ce moment-là. En fait, j'ai traversé autant que ce qu'il m'a traversé. Et puis il est sorti. Et là, le souvenir que j'ai ensuite, c'est juste ses yeux, quoi. Je me souviens m'être plongée dans son regard. C'est le moment le plus grandiose de ma vie. C'était beau. Finalement, ça a été assez vite parce qu'à 17h, il était là. Donc, tu vois, je suis arrivée à l'hôpital, il était peut-être 1h. Et il y a eu ce truc avec le bain et la sortie du bain, un peu plus compliqué, mais voilà, il était là, il était... Je lui ai dit, mais t'es là, t'es tellement là, t'es toi. J'ai vraiment ressenti un moment grandiose d'amour, d'union, d'instinct. Puis ça a été super naturel. Je l'ai mis au sein assez rapidement. Je me souviens que mon homme m'a dit « J'ai adoré, on recommence quand tu veux. » Que moi, je m'étais dit « Ouais, pas tout de suite, tout de suite. » Et on a passé quelques jours... Enfin, on a passé 48 heures à l'hôpital, mais juste formidable, quoi. On s'est trop éclatés. On n'arrêtait pas de se marrer. J'étais super contente parce qu'en fait, mon corps était... Enfin, j'arrête pas de dire mon corps. Ça me dérange parce que c'est comme si je pensais qu'il y avait une différence entre mon corps et moi. Pas du tout. Enfin, c'est moi, mais là, c'est moi, la version très physique de moi qui juste me dictait, qui me portait, qui me laissait... qui m'accompagnait dans mes souhaits, dans mes volontés. Moi qui, je l'ai dit au tout début, tu vois, moi qui ai un rapport avec mon enveloppe corporelle pas toujours simple... Là, tout d'un coup, je me sentais juste unique, enfin, totale. Je me sentais juste bien. Enfin, tout d'un coup, c'était la symbiose totale entre moi et moi, entre moi et mon bébé, entre mon mari, mon bébé et moi. Enfin, c'était un super, super beau moment. J'étais très touchée par le placenta pendant ma grossesse, ce que j'avais jamais imaginé avant. J'avais pas du tout pensé à ce que représentait le placenta avant de donner naissance. Et j'avais pas, ça me parlait pas, enfin j'y avais réfléchi, mais finalement ça me parlait pas de faire des gélules à manger. J'avais l'impression que, tu vois, si le corps expulse le placenta... c'est qu'il y avait une raison, et le fait de le remanger après me paraissait pas si naturel que ça, donc voilà, ça me parlait pas, mais par contre, ouais, c'était important pour moi de pouvoir honorer ce placenta, et je sais pas l'expliquer avec beaucoup de mots, simplement, il y avait, j'avais comme un respect à cet organe qui allait, enfin, qui pouvait me survivre. Enfin, c'est formidable, quoi. Le placenta est un organe qui te survit si t'arrive quelque chose. Donc, c'est le premier organe qui permet à ton enfant de juste te survivre. C'est quand même super beau, quoi. Et donc, et ça, j'en avais beaucoup parlé à ma sage-femme. Et j'en avais même parlé à ma gynéco qui m'avait dit, bah, c'est marrant que ça vous travaille, alors que vous, dans votre cas, si vous risquez de faire une hémorragie, c'est une hémorragie de la délivrance. Donc voilà, bref, c'était peut-être un signal que là, il y avait quelque chose d'important pour moi. Et du coup, quand le placenta est sorti, ben, en fait, ma sage-femme, et je suis hyper reconnaissante pour ça aussi, elle a pris le temps de me le montrer. Elle m'a dit, voilà, la poche dans laquelle il était, voilà comment c'est. On a attendu avant de couper le cordon et c'était juste... ouais, c'était beau, en fait, j'ai un bon souvenir. Après avoir vu les yeux d'Arsène, j'ai un souvenir d'avoir regardé et contemplé ce placenta. Elle a fait une empreinte de placenta sur une rondelle de bois qu'on avait utilisée à notre mariage. Et je suis contente parce que je trouve ça super joli. Et ça m'appartient, hein, je vais pas en faire une œuvre d'art. Mais ouais, et elle a aussi fait une empreinte sur un bout de papier. Et j'ai trouvé ça juste formidable, quoi. Ce que je trouve assez beau, c'est qu'en fait, c'est peut-être bien la première fois où j'ai voulu honorer une partie de moi de manière aussi, aussi claire et intense, quoi. Et je t'ai dit tout à l'heure que Arsène m'avait appris la patience. Ben, Arsène, il m'a aussi appris l'amour de moi. Il m'a... Ouais, il m'a donné un ancrage que j'avais pas. Il a permis de lever le voile sur tout un tas de choses dans ma vie et c'est juste merveilleux, quoi. En fait, ouais, j'ai peut-être bien donné naissance dans les bois. Parce que je pense que c'est ça qui représente pour moi. C'est vraiment ce petit arbre qui grandit. Et ça a été dur quand même pour nous de trouver un prénom. Arsène était un prénom qui est venu, je crois, au mois de janvier. On a été à Étretat. Donc on s'est mis à lire Arsène Lupin. Et en fait, je sais pas, ça me paraissait juste tellement... tellement poétique ce prénom, mais bon voilà, c'est pour nous c'était un prénom quand même original. On se disait, mais est-ce qu'on est sûr? Enfin, je trouve que c'est vraiment super dur de donner un prénom à un enfant. J'ai pas eu du tout ce truc de ah ouais, c'est sûr, c'est ça. On a quand même hésité, mais en même temps, c'était toujours le prénom qui revenait. Et ce qui est super marrant, c'est que pendant ma grossesse, j'ai été volée à plusieurs reprises. J'avais jamais été volée de ma vie. On a été volée, ouais. On a été cambriolée. Et puis on m'a piqué mon portefeuille. On m'a volé un bracelet auquel je tenais beaucoup. Et en fait, à chaque fois, je me disais, oh, c'est ballot, mais quand même, c'est pas très grave, quoi. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en moi. Et puis à un moment, je me suis dit, peut-être c'est un petit signe, tu vois, Arsène Lupin comme gentleman cambrioleur, peut-être c'est un signe qu'il m'envoie. Il m'apprend que, en fait, le matériel n'est pas si important que ça. Ouais. Et puis ce qui est marrant, c'est que 2 semaines après sa naissance, il a fallu aller le déclarer à la commune. Mon homme est arrivé, il a dit, voilà, bonjour, je viens déclarer Arsène qui est né le 9 juin. On lui a répondu, ben, il n'y a pas d'Arsène qui est né le 9 juin. Et il a dit, ah, si, mon fils est né le 9 juin. Et en fait, il y a eu un problème qui n'arrive apparemment jamais. Erasme a oublié de déclarer sa naissance à la commune. Et donc, on s'est vraiment dit, un petit hors-la-loi, quoi. Et donc là, on s'est dit que peut-être on ne s'était pas trop planté au niveau de son prénom. Bah, donc, je te dis, hein, à l'hôpital, en fait, finalement, c'était assez fun. On s'est bien marré, mais j'avais très envie de rentrer à la maison. J'avais aussi envie de remercier ma maison, cette lumière, ces moments incroyables que j'avais en tête, qui s'étaient passés 2 jours avant. Et c'était marrant parce que, enfin ouais, je te dis 2 jours avant, mais quand j'y repense, j'ai l'impression qu'il y a eu un univers entre avant Arsène et puis sa naissance et le retour à la maison. Mais on était en fait assez rapidement à la maison, on était très en forme. Ouais, je sais que j'avais en tête que je resterais à la maison super longtemps sans sortir et tout, mais le jour du retour de la maternité, j'étais tellement excitée qu'on a été le présenter à toute ma famille. Mon grand-père qui est assez vieux, bah, était là, j'avais envie de lui montrer Arsène. Donc à peine 3 jours, Arsène a été pris dans les bras par absolument toute la famille. Après on a eu des longues semaines de coller serré juste à deux, mais à ce moment-là ça paraissait juste vraiment juste. Et donc on est rentré à la maison et on était bien. On est resté dans cette bulle de douceur qui a vraiment caractérisé mon postpartum, quoi. D'ailleurs, je pense pas que... Enfin, je crois que je suis toujours en postpartum, là. Mais le postpartum immédiat, en tout cas, ça a été vraiment un moment de... Ouais, où on a vraiment chéri ces instants à trois. J'ai l'impression d'avoir chéri mon corps aussi. On l'a remercié. Je me souviens qu'on a eu un moment où on s'est tous les deux dit merci, mon amoureux et moi, de tout ce qui s'était passé et de l'intensité de ce qui s'était passé. J'ai l'impression que... ouais, que... Il y a eu vraiment un moment... c'est un moment de vie, quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé là, à l'échelle de ma vie, que j'avais jamais ressenti avant. Enfin, je crois que je suis vraiment devenue qui je suis à ce moment-là. C'est pas que je me définis que comme mère, c'est pas vrai. Mais y a eu une forme d'apprentissage énorme qui m'a beaucoup apporté. Et j'arrêtais pas de dire Arsène apprend autant que ce qu'on apprend, quoi. On avait l'impression de recevoir tellement, j'ai l'impression d'avoir reçu, mais puis c'était génial, tu vois. On a eu 3 semaines où nos copains sont venus tous les jours nous apporter des trucs à manger. On n'a pas dû cuisiner pendant 3 semaines, c'était juste absolument formidable. En fait, finalement, on a eu des visites tous les jours et on a adoré ça. Au début, on s'était dit, ben non, on va pas faire trop. Mais nous, ça nous a fait du bien de partager ce bonheur avec nos proches. Et puis, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ma sœur est retombée enceinte après. Et en fait, c'est devenu très chouette. À la naissance d'Arsène, on s'est retrouvés, je trouve, avec ma sœur. Et puis, de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle donne elle-même naissance. Et là, on est vraiment dans un rapport d'amour et d'échange qui nous fait du bien. Et ouais, j'ai vraiment l'impression que la douceur dans laquelle on a été à ce moment-là de notre vie a contribué à ce que mes relations aussi avec d'autres deviennent ou soient encore plus douces qu'avant, quoi. C'est vraiment ce mot-là qui me revient. Ça n'a pas toujours été facile, hein. Je ne veux pas prétendre que j'ai pas eu de chute d'hormones, que j'ai pas pleuré ma vie. Bien sûr, j'ai pleuré. Bien sûr qu'il y a eu des moments un peu plus douloureux. Arsène a eu un petit frein de langue restrictif, donc on a eu quelques semaines au niveau de l'allaitement qui... Enfin, ça allait, mais c'était pas... comment on dit, c'est instinctif, mais pas inné. Enfin, c'était vraiment... ça me paraissait tout à fait naturel de l'allaiter, mais c'était pas toujours facile de le faire. Donc voilà, on a un peu chipoté pendant les 3 premiers mois, mais on y est arrivé et on a trouvé un rythme qui nous convient, quoi. Je m'étais pas du tout imaginée comme allant allaiter très longtemps, même si c'était évident pour moi d'allaiter. Et maintenant, Arsène a 6 mois, je n'imagine pas m'arrêter d'allaiter. J'adore ce lien qui nous unit. Ouais, j'adore le porter. J'adore répondre à ses besoins. Enfin, c'est vraiment doux, quoi. Et donc oui, tu vois, je tire mon lait au boulot et ouais, il y a un côté fastidieux parce que je trouve pas ça super naturel de devoir mettre mon lait dans des petits récipients alors que mes seins sont des parfaits récipients pour mon lait. Mais en même temps, ça me remplit tellement de joie de pouvoir lui donner ça que je le fais mais sans contrainte, quoi, tu vois. Bon. Après, je trouve que on devrait avoir beaucoup plus de mois de congé après une naissance parce que c'est un tel chamboulement que en fait on a besoin de temps, quoi. Et mon homme aussi, il a eu besoin de beaucoup de temps. Donc lui, son cadeau, ça a été d'écrire une carte blanche dans un journal belge avec d'autres papas. Il a récolté une centaine de signatures pour plaider pour un allongement du congé de paternité. Mais tous les deux, on a vraiment ressenti une envie que cette douceur puisse encore un peu continuer. Et ouais, ça nous paraît naturel, en fait, que ça continue, quoi. Ouais, toi aussi, t'as envie que ça continue. Mais oui. Ouais, d'ailleurs, ce qui a été un peu plus difficile, c'était quand mon homme a recommencé à bosser. Là, tout d'un coup, moi, j'avais l'impression d'être en ajustement permanent. En fait, j'avais besoin de lui. J'arrête pas de penser aux mamans solo depuis que j'ai un enfant parce que ouais, ce sont des badass, quoi. Vraiment, il faut pouvoir le dire, quoi. Et du coup, quand lui a recommencé à bosser et que ce déséquilibre s'est un peu installé, bah là, ça a été plus compliqué pour moi. Et donc, le fait de moi finir par aller retravailler a permis quelque part de réajuster quelque chose, même si dans notre souhait à nous, on aurait préféré réajuster différemment en ayant plus de temps encore à 3. Mais bon, on le sait et on en tiendra compte si et quand on en fait d'autres, quoi.
Merci Léa pour ce premier grand chapitre. Est-ce que tu voudrais maintenant nous partager, voilà, si tu as des pistes, des idées, des réflexions que tu aimerais amener là à des auditeurs et des auditrices qui écoutent le podcast. Qu'est-ce qui te semblerait important à partager là ?
J'ai pas vraiment de conseils à donner. Je trouve ça un peu barbant, toutes ces femmes qui nous donnent des conseils, et tous ces hommes aussi, parce que, enfin voilà, je les écoute un petit peu moins, mais il y en a eu aussi. Par contre, ce que je peux partager, c'est que la naissance de mon fils, ça a été une expérience pour moi d'amour infini, mais aussi de sororité. J'ai vraiment l'impression d'avoir bien malgré moi, été entourée de femmes, de sœurs, qui m'ont vraiment portée, qui m'ont inspirée. Il y a ma sœur, évidemment, mais il y a aussi toutes ces autres femmes de mon village, celles très proches et puis celles un peu plus éloignées, qui, même si elles ne le savent pas, m'ont beaucoup aidée. Et je pense que s'il y a bien une chose que la grossesse m'a apportée, c'est ça, c'est l'importance de pouvoir m'entourer en toute authenticité de femmes, de sœurs, qui savent et qui sont juste là. Il y a ça, et puis alors je pense qu'avec la naissance de mon fils, j'ai vraiment expérimenté une espèce de un sentiment de confiance absolue en moi et en lui. Et voilà, je pense que on sait au fond de nous que nos bébés savent au fond d'eux et qu'on peut juste se laisser aller à ces sentiments de savoir. Je suis sûre que savoir c'est pouvoir. Je suis sûre que qu'on a ça en nous et que c'est juste absolument grandiose et formidable, quoi. J'ai envie de terminer en te disant que que rien n'arrive au hasard. Moi, c'est marrant parce que le bouquin que j'ai fermé juste avant d'avoir des contractions parlait du passage dans le désert et de la fête de la Pâque juive, donc du fait de quitter l'esclavage pour aller vers un monde libre. Quelque part, je crois que j'ai vécu ça à mon échelle. En donnant naissance, j'ai l'impression d'avoir traversé mon désert. J'en ai sans doute d'autres à traverser. C'était peut-être un désert de ma vie. Mais toute cette traversée a été absolument grandiose. Et je crois que ça, c'était mon expérience de confiance. Et de réconciliation et de reconnexion à mon corps. Et Arsène, ici, qui est tout contre mon cœur, se rendort. Je crois que c'est son signe à lui pour dire que... Il est plutôt d'accord.
Merci beaucoup, Léa. Merci. Merci pour ton partage qui est super authentique. Merci aussi à Arsène. Et voilà, le micro sera toujours ouvert si tu as des choses à nous raconter une prochaine fois. Mais merci en tout cas pour ce témoignage super inspirant. Super inspirant. Et je sais déjà que, voilà, je récolterai des avis très positifs. Et voilà, je te les ferai parvenir. Voilà. Merci Léa.
Merci à toi.
Merci pour votre écoute. Si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas à me laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.